France Inter. Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Et nous sommes en ligne à présent avec Philippe Conticini. Bonjour Philippe Conticini.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes parmi les chefs pâtissiers français les plus reconnus à travers la planète? Vos boutiques à Paris, à Tokyo, mettent en avant votre concept de gâteau d'émotion. Alors comment en êtes-vous arrivé là? Eh bien, vous le racontez dans ce livre qui a pour titre « Cochon de lait » paru aux éditions du Cherche Midi. Car au commencement était donc la côte de cochon de lait. Elle a changé votre vie. C'est un cochon de lait préparé à l'époque par votre frère, avec qui vous veniez d'ouvrir votre restaurant à Pigalle. Vous aviez 23 ans. En quoi ce cochon de lait cette côte de cochon de lait a-t-elle remis en cause votre pratique de la pâtisserie?
Ben en fait, on voulait ouvrir, comme vous l'avez dit, le restaurant. Et au début, on avait peu de monde. Hein. Et voilà, mon frère me dit, assis-toi, il me fait goûter un plat, ce plat, côte de cochon de lait, avec une purée foisonnée, avec un jus absolument incroyable, et une purée, une côte de cochon assez, assez épaisse et croustillante. Et...
Comme un orgasme, hein, pour
oui,
vous l'écrivez
ça.
Comme alors, ça dans le livre.
Ça a été très puissant, ouais. et surtout, une émotion que j'avais jamais ressentie avant. Et le lendemain, avec un autre plat pareil, puis un autre, j'ai oublié 4-5 jours, je me suis dit, mais... Comment se fait-il que mes desserts soient bons, ok, mais comment se fait-il que je ne ressente pas ça dans mes gâteaux? Et moi, je veux ressentir ça dans mes gâteaux. Et ça a été le début de mes problèmes, en fait, puisque j'ai tout remis en question, j'ai recommencé à zéro, je suis devenu autodidacte, en fait, complètement. Et j'ai changé ma façon de faire, et petit à petit, je me suis mis dans le travail du goût.
Oui, à l'époque, votre frère, d'ailleurs, ne vous a donné qu'un seul mot pour vous faire comprendre cette recette du cochon de lait qui vous avait tant ému. Et ce mot, c'est assaisonnement. Or, l'assaisonnement, ce n'est pas un terme de pâtisserie. Alors, comment le pâtissier que vous êtes s'est-il approprié la notion d'assaisonnement en pâtisserie?
Alors, c'est une vraie question. Ça, en fait, d'abord, c'est venu petit à petit, évidemment, hein, puisque... Bien sûr, j'ai commencé de zéro et petit à petit j'ai compris en fait que le fait que l'assaisonnement, en fait, d'abord c'était ce qu'on connaissait tous, hein, le sel ou le poivre dans la vinaigrette, quelque chose sur de la viande ou des légumes, mais en fait ça allait beaucoup plus loin que ça, et que je pouvais parfaitement me l'approprier pour faire avec mes fruits, par exemple, des fruits rouges ou avec des fruits jaunes comme la pêche. Ressortir des goûts dont on n'avait pas l'habitude, qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de ressentir.
C'est un peu votre marque de fabrique d'ailleurs, hein, de faire ressortir les goûts qui a priori ne sont pas faits pour aller ensemble, mais c'est un a priori.
C'est à toi, absolument, tout à fait. Mais ceci dit, depuis, j'ai bien grandi et j'ai compris qu'en fait, on pouvait parfaitement, sans aller sur l'assaisonnement cuisinier, comme on le connaît, qu'on pouvait parfaitement se servir de l'air, entre guillemets, hein, de l'air comme un assaisonnement, de l'humidité comme un assaisonnement. À partir du moment où on change le goût ressenti, par exemple, on met du sel sur de la viande, c'est de l'assaisonnement, et on change le goût qu'on a en bouche. Si on mange que de la viande sans sel, on a le goût de la viande, avec du sel, on a un autre goût. Quand je mets beaucoup d'air dans incorporé d'une façon particulière dans une préparation, ou beaucoup d'humidité dans un biscuit, par exemple, je change complètement le goût ressenti. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est considéré que l'air ou l'humidité ou d'autres choses, hein, peuvent être des assaisonnements? La réponse est oui, évidemment, puisqu'à partir du moment où je change le goût ressenti, hein, voilà.
C'est
donc
gagné.
J'ai bien fait évoluer le concept de l'assaisonnement.
Philippe Conticini, est-ce que votre palais à vous, il est exercé? On peut dire de vos papilles qu'elles sont géniales. Vous écrivez que vous avez le goût absolu, comme on peut dire de quelqu'un qui a l'oreille absolue.
En fait, je l'ai écrit beaucoup parce qu'on me l'a beaucoup dit. Et en fait, c'est bien sûr, je ne sais pas si on peut vraiment le comparer à l'oreille absolue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le goût, c'est comme la vue. On a tous l'impression de voir on voit à 10 sur 10 avec lunettes ou sans lunettes, et on a tous l'impression quand on mange qu'en fait on voit le goût, entre guillemets, à 10 sur 10, alors qu'en fait on le voit d'abord au travers de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de la culture qu'on a eue dans un autre pays. C'est sûr qu'on aurait chacun son goût, mais il serait, au Japon par exemple, ce serait plus un goût autour des poissons peu cuits, de bouillon, de riz, etc. etc. Ce ne serait pas le bœuf bourguignon, la blanquette ou steak frit qu'on a en France.
Donc en vous écoutant, ça n'a pas de sens, Philippe Conticini, ça n'a pas de sens pour vous de parler de bon ou de mauvais goût?
Non, non, parce que d'abord, un, le goût, il est quand même un. Il y a le goût est personnel, mais par contre, l'équilibre du goût, ça, ça rentre dans le travail du goût, donc dans l'assaisonnement et dans la structure de la compréhension du goût. Mmh. Non, il n'y a pas de bon et de mauvais goût.
Mais c'est ce qui fait quand même l'harmonie d'un plat. L'harmonie d'un plat, c'est donc pas la même chose que le goût personnel.
Non, c'est deux choses différentes, madame. C'est vraiment deux choses différentes. J'ai une anecdote, mais elle est courte, mais elle est importante.
Allez-y.
Bon, en 98, je vais à Rome, dans la Villa Médicis, un ancien sous-chef de notre restaurant. C'est un grand repas, il invite des grands chefs, j'y vais avec ma femme.
En Italie, donc ?
En Italie, donc. Et donc, on mange un repas incroyable, une quinzaine de plats. Et dans ces plats, il y a une entrée qui est une déclinaison sur l'amertume. Je n'aime pas, à l'époque, hein, l'amertume. Et après le repas, il vient me voir, il me demande si le repas était bon, je lui explique que c'était extraordinaire, et il me demande si j'ai aimé cette entrée sur l'amertume, une déclinaison sur l'amertume. Et là, je lui dis, Xavier, je suis désolé, mais c'est pas mon goût, donc j'ai pas aimé, quoi. Je le sens très déçu, et il me demande quel est le plat le plus abouti. Je lui dis, c'est celui-là, c'est la déclinaison sur l'amertume. Il me dit, je comprends pas, vous venez de me dire que vous n'avez pas aimé. Je lui dis, vous avez demandé si moi, j'avais pas aimé. J'ai pas aimé parce que c'est pas mon goût, mais entre mon goût et l'équilibre, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Que ce soit un cocktail, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ou ce plat ou d'autres d'ailleurs, apprécié parce que l'aboutissement du plat ou du dessert ou était parfait. Par contre, ce n'est pas mon goût. La bière, je n'aime pas ça. Elle était présente dans un cocktail. Je ne peux pas vous dire que j'ai aimé le cocktail, mais en termes d'aboutissement, je crois que c'est le meilleur cocktail que j'ai goûté de ma vie. Ça n'a rien à voir. L'équilibre, ce sont deux choses très différentes.
En 2015, Philippe Conticini, vous avez lancé les ateliers du goût à Gennevilliers, hein, en région parisienne. C'est quoi la vocation d'un atelier du goût? C'est à destination de qui?
Alors, c'est à destination de tout le monde. On va dire du plus grand nombre. Moi, je ne fais pas d'atelier. Il y a parfois des professionnels, mais assez peu. Ce que j'ai envie, c'est de transmettre, en fait, toutes les clés que j'ai pu trouver que j'ai pu découvrir et trouver depuis 35 ans maintenant. J'ai envie de les transmettre. J'ai eu envie et j'ai envie de les transmettre. Donc voilà, je fais ces ateliers. Et c'est vraiment, alors les gens ne travaillent pas, ils sont autour de moi. Moi, je les fais participer, je les taquine, je les fais participer. C'est très, et je les détends très très vite. C'est très cool. C'est très professionnel en même temps, parce que je suis quand même là pour partager et faire partager plein de choses. Je leur donne énormément d'informations au travers du goût. Les deux, trois petites choses que je vous ai dites, par exemple, il m'arrive parfois, pas toujours, mais de les dire. Et surtout, je les mets bien sûr en action et je leur montre que ce que je leur dis est vrai, bien évidemment.
Mais les gestes en Philippe Conticini en cuisine, ce sont souvent les mêmes. Est-ce que vous gardez un émerveillement au bout de tant d'années de les accomplir?
Ah oui. Je suis comme un gamin, je suis un vrai gamin. Et je suis émerveillé de voir tout ce qui se passe. D'abord, la façon dont je travaille, dont on travaille en général, et qu'on peut transformer les choses comme ça. Voir une crème qui boue, des croquettes au chocolat qui explosent dans la bouche, que ce soit mes desserts ou d'autres d'ailleurs. Hein, je suis comme un gamin. Même si je sais parfaitement comment on le fait, ça m'émerveille toujours de voir à quel point on peut déclencher une émotion. Ça, c'est fantastique.
Notre invité ce matin, le pape de la pâtisserie, Philippe Conticini, pour son dernier livre, Cochon de lait, qui paraît au Cherche Midi. Ce livre, c'est à la fois donc votre parcours initiatique à la quête du goût, on vient d'en parler. C'est aussi un parcours plus intime, hein, vos blessures de jeunesse, et elles sont résumées en une phrase au début de ce livre. Je vous cite, « Tous ceux qui auraient dû m'aimer m'ont fait du mal. » Vous parlez de votre frère, de votre mère, et puis principalement, probablement, de votre père. De quels mots avez-vous souffert?
Écoutez, c'est beaucoup de choses. Hein. Les mots les plus forts, en fait, que j'ai entendus souvent, ou les phrases les plus fortes, c'était que j'avais une tare, j'étais un taré, en fait, avec mon poids. Mon père ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que je puisse... Et mon frère, plus tard aussi, d'ailleurs, c'est sous sa coupe.
C'est que vous avez travaillé ensemble?
On a travaillé ensemble, oui. Et puis, mon père me disait souvent, hein, de toute façon, toi, t'es un mec faible, tu finiras sous les ponts et tu seras incapable de prendre en main ta vie, quoi. Tu seras une merde, quoi. Et ça, je l'ai entendu, alors pas tous les jours, bien sûr, mais régulièrement. jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait tout ça n'était pas vrai.
Mais ouais. Quand vous parlez de votre poids, et ça a été, vous en avez souffert aussi en classe, la nourriture était pour vous une consolation finalement?
Oui. En fait, j'étais toujours seul. Mes parents travaillaient beaucoup, tout le temps. Et des restaurateurs.
Vos parents étaient restaurateurs, oui.
Oui, des restaurateurs. Donc, le soir, évidemment, ils n'étaient pas là. Et ils n'étaient là que le dimanche soir, en fait. Donc, ma mère remplissait le frigo, peut-être pour se dédouaner, je ne sais pas, hein, de sa présence. En tout cas, elle remplissait le frigo et moi, je mangeais. Mmh. Et, évidemment, je n'allais pas boire ou me droguer ou me piquer, mais je mangeais. Ça me remplissait de douceur, quoi. Voilà.
Votre mère était une excellente cuisinière, hein, donc on précise, vos parents restaurateurs, le restaurant du Parc en Seine-Saint-Denis, il aura même une étoile dans le Goemio de 1974. Votre père, la gestion, et votre mère, au fourneau, c'est comme ça que ça se passait?
Oui, absolument. Oui.
Excellente cuisinière, voilà. vous êtes inspiré d'elle, notamment de ses gâteaux brioche ou tarte tatin, hein.
Bah, en fait, c'est surtout le goût qu'avaient ces gâteaux qui m'ont conduit tout au long de ma vie. C'est pas tellement la technique qu'elle avait, parce que ma mère m'a pas transmis de technique, mais par contre, ces goûts-là, je les ai jamais oubliés, et c'est des goûts qui m'ont rempli de plaisir quand j'étais petit, de vrai plaisir. Hein. Et c'est toujours des goûts que j'ai voulu retrouver plus vieux, plus âgé, en 2009, quand j'ai mis au point la tarte tatin, il fallait que ça ait ce goût-là. En tout cas, que ça me fasse ressentir le plaisir que j'avais moi quand j'étais petit. Et c'est ça qui m'a guidé, qui me guide toujours.
Alors il y a la tarte tatin, il y a le Paris-Brest, mais tout en haut de l'échelle, il y a le millefeuille pour vous.
Oui, j'adore ça. C'est grave. Mais par contre, j'adore ça quand il est bien fait. Hein. C'est-à-dire que le feuilletage doit être absolument top et la crème aussi. Ce qui m'a amené d'ailleurs à développer des techniques pour faire un feuilletage poussé, archi-poussé, surpoussé et une crème avec deux chopes thermiques, deux foisonnements à basse température. Enfin bref, c'est tout ça qui m'a poussé à ressentir une émotion extrême et qui a fait que je suis allé très très loin dans ma recherche du travail.
L'émotion et la créativité, hein, c'est aussi un marqueur pour vous, la créativité, aussi bien à l'école que comme Marmiton, et puis après comme chef. Également créatif dans la présentation des desserts. Les verrines en dessert, bah c'est vous. C'était pourquoi? Pour en finir avec l'horizontalité, vous avez cherché quoi avec les verrines?
En fait, c'est venu petit à petit. Hein. Juste un mot d'abord sur la créativité. Pour moi, c'est une vraie liberté. C'est synonyme de liberté, la création. Et donc, c'est un métier libre. Dans ma tête, peut-être pas tout à fait dans mon corps, mais dans ma tête, ça c'est sûr, et dans mon cœur aussi. Mmh. Au sein de l'Everine, en 1992 à peu près, j'ai commencé à me dire que mes desserts ne me convenaient plus. Je ne comprenais pas pourquoi. Je manquais vraiment, vraiment d'idées, de création. C'est une année où j'ai pratiquement créé aucun dessert, parce que ça ne me convenait plus. J'ai compris, j'ai fini par comprendre que c'était le contenant qui n'allait plus, parce que mes desserts étaient beaucoup allégés, beaucoup émulsionnés, beaucoup moins collés à l'époque, mais j'ai pas tout de suite pensé à la verrine, et c'est venu au fur et à mesure, un soir, comme ça, en juin, 94, je descends après le bureau, et je vais dans la cuisine. Et voilà, on était en train de mettre au point un dessert à une sorte de quenelle de fromage blanc, de chocolat blanc et de fromage blanc avec un jus de betterave.
Et un peu d'estragon.
J'ai un peu d'estragon, une petite salade. Et tout d'un coup, j'ai une idée. Ça vient comme ça, j'appelle le sommelier, je lui dis, Mélie, venez boire un verre à Bourgogne. Je viens d'avoir une idée. Il m'amène le verre à Bourgogne, qui est un grand verre. Hein. Je prends mon dessert, je le restructure. Je ne déstructure pas, hein, mais je restructure, je reconstruis mon dessert à la verticale. Et là, je prends le verre, je le regarde, et en l'espace de 10 secondes, je me suis dit, waouh, j'ai trouvé mon bébé, ça va faire le tour du monde, ce truc-là, ce qui est le cas d'ailleurs. Moi, j'ai jamais gagné d'argent avec les verrines, mais elles ont fait le tour du monde. Et ça a changé ma vie, en fait, cette idée-là.
Votre vie, donc, Philippe Conticini, on la lira dans ce livre Cochon de lait, le goût de l'enfance. Vous y racontez votre quête du goût et votre vie également, votre vie avec beaucoup d'émotions, celle que vous faites partager également dans votre pâtisserie. Et merci beaucoup Philippe Conticini d'être venu en parler ce matin sur l'antenne de France Inter. Merci beaucoup et bon dimanche.